Les anciens disposaient d'armes étranges, provoquant des perturbations moléculaires chez les entités rebelles. Ils avaient fini par remporter une victoire totale. Après cela, les sculptures dépeignaient une époque où les chogotes étaient capturés et domptés, comme les chevaux sauvages de l'Ouest américain l'avaient été par les cow-boys. Bien que durant cette rébellion, les chogotes aient montré leur capacité à vivre hors de l'eau, cela n'était pas encouragé car leur utilité sur la terre ferme n'aurait pas compensé les efforts nécessaires pour garantir leur soumission. Durant la période jurassique, les anciens avaient dû affronter de nouveaux adversaires sous la forme d'une invasion venue de l'espace, celle d'êtres mi-champignons, mi-crustacés, venus d'une planète que l'on a pu identifier comme la lointaine et récemment découverte Pluton. Des créatures qui étaient sans nul doute celles dont parlent à mi-voix les légendes des collines du Nord, et que les Himalayens appellent Migo, ou abominable homme des neiges. Pour combattre ces choses, les anciens avaient tenté pour la première fois depuis leur arrivée sur Terre de s'aventurer à nouveau dans les terres interplanétaires. Mais en dépit de toutes les préparations habituelles, ils avaient découvert qu'il ne leur était plus possible de quitter l'atmosphère terrestre. Quel qu'ait pu être leur ancien secret pour voyager dans l'espace, ils l'avaient perdu à jamais. Finalement, les Migos avaient repoussé les anciens jusqu'aux terres du Nord, mais n'avaient pu soumettre ceux des océans. Peu à peu, commença le long exode de cette race vers son ancien habitat antarctique. Nous avons pu noter quelque chose d'étrange dans les représentations des batailles. Aussi bien les rejetons de Cthulhu que les Migos semblaient composés d'une matière très différente de celle que nous connaissons des anciens. Ils pouvaient subir des transformations et des réintégrations qui étaient impossibles pour leurs adversaires et venaient donc apparemment de régions de l'espace encore plus éloignées. Malgré leur résistance anormale et leurs propriétés vitales particulières, les anciens étaient strictement matériels et leur origine devait se trouver dans les limites du continuum spatio-temporel que nous connaissons. Mais pour ce qui est de leurs adversaires, il est impossible de faire autre chose que d'audacieuses suppositions. Tout ceci, bien sûr, en admettant que la nature extraterrestre et les anomalies attribuées aux envahisseurs aient été autre chose que de la pure mythologie. Il est toujours possible que les anciens les aient imaginés pour expliquer leurs défaites occasionnelles, étant donné que l'intérêt pour l'histoire et l'orgueil semblent avoir été des traits dominants de leur psychologie. Il est significatif que leurs annales ignorent bien des races puissantes et avancées dont les cultures florissantes et les immenses cités apparaissent constamment dans certaines légendes obscures. Les changements qu'a connus le visage de notre planète au cours des époques géologiques étaient très clairement représentés sur bien des cartes et des scènes sculptées. Dans certains cas, la science actuelle devra être profondément révisée, tandis que sur d'autres points, ses déductions les plus audacieuses se trouvent entièrement confirmées. Comme je l'ai déjà dit, les hypothèses de Taylor, Wegener et Joly, selon lesquelles tous les continents ne sont que les vestiges d'une terre originale antarctique qui se sont fragmentés sous l'effet de la force centrifuge et ont dérivé sur une couche profonde, visqueuse, hypothèses suggérées par les contours complémentaires de l'Afrique et de l'Amérique du Sud et la façon dont ont été soulevées les grandes chaînes de montagnes, reçoivent une confirmation frappante de cette source inattendue. Des cartes décrivant le monde du Carbonifère il y a 100 millions d'années ou plus montraient des failles et des gouffres qui, plus tard, sépareraient l'Afrique des régions autrefois contiguës de l'Europe, qui étaient alors la Valusie des infernales légendes archaïques, de l'Asie, des Amériques et du continent antarctique. Sur d'autres, et surtout l'une d'entre elles directement liée à la fondation, il y a 50 millions d'années, de la cité morte s'étendant tout autour de nous, les continents étaient déjà séparés. Et dans le dernier spécimen que nous avons pu découvrir et qui remonte peut-être au Pliocène, le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui apparaissait très clairement, malgré la jonction de l'Alaska et de la Sibérie, de l'Amérique du Nord et de l'Europe via le Groenland et de l'Amérique du Sud avec le continent antarctique par l'intermédiaire de la Terre de Graham. Sur la carte du Carbonifère, l'ensemble du globe, aussi bien les océans que les terres émergées, portait la marque des vastes cités de pierre des grands anciens. Mais dans celles plus récentes, leur repli progressif vers l'Antarctique ressortait de manière évidente. Le dernier exemple, celui du Pliocène, ne montrait plus la moindre ville terrestre, sinon sur le continent antarctique et à la pointe de l'Amérique du Sud, et pas une seule cité marine au nord du 50e parallèle de latitude sud. À part une étude des côtes sans doute dessinées après de longs vols d'exploration sur leurs ailes membraneuses, le savoir et l'intérêt pour le monde du Nord avaient décru chez les anciens jusqu'à disparaître totalement. La destruction des villes par la poussée des montagnes, la dérive centrifuge des continents, les convulsions sismiques des terres comme du fond des mers et autres causes naturelles étaient souvent représentées, et il était curieux de voir à quel point le remplacement des cités détruites par de nouvelles constructions n'avait cessé de diminuer au fil du temps. La vaste métropole morte qui nous entourait de toutes parts semblait être le dernier centre de leur race. Elle avait été construite au début du Crétacé, après qu'une secousse titanesque ait détruit la précédente, encore plus grande, bâtie non loin de là. Cette région dans son ensemble apparaissait comme le plus sacré des lieux, là où les premiers anciens étaient censés s'être installés au fond des mers primordiales. Dans la nouvelle cité, dont nous pouvions reconnaître les caractéristiques dans les sculptures, mais qui s'étendait encore sur 150 kilomètres le long de la chaîne de montagnes, dans chaque direction à partir des points où nous avions interrompu notre reconnaissance aérienne, on disait qu'étaient conservées certaines pierres sacrées qui avaient formé une partie de la toute première cité immergée et qui avaient été ramenées à la surface après de longues ères durant le processus général d'effondrement des strates.